Passons à la Mishnah Dalet, cette quatrième Mishnah du troisième périk de Masechet Sota. Et là, on a vu dans la Mishnah précédente tous les préparatifs pour lui faire boire à cette femme qui est soupçonnée d'adultère le breuvage qui va permettre de vérifier si elle est pure ou bien elle a trompé son mari. Et là, on parle ici de qu'est-ce qui se passe après qu'elle commence à boire. La Mishnah nous dit Enna maspeket lishtot ad shepana morikot veinea boltot vimit malet. Alors la Mishnah nous dit qu'elle n'a pas même pas le temps de terminer de boire, que déjà son visage, on parle d'un cas où elle a trompé son mari, son visage va devenir moricote blanchâtre, elle va devenir pâle, et ses yeux vont commencer à ressortir, elle va se remplir de nerfs, de tendons en fait. Comme explique le rapporteur, comme elle va commencer à gonfler, c'est ça les conséquences de ce breuvage. Alors elle apparaît comme si dans son visage il y avait plein de guidim, plein de tendons, plein de nerfs. Et donc on comprend, les gens qui observent ça, ils comprennent qu'elle a trompé, et effectivement elle va bientôt mourir. Alors les gens qui étaient sur place, ils disaient, Ve mambrim otsiwa, sortez-la, sortez-la, sortez-la tout de suite de l'endroit où il se trouve, donc de cette cour-là, c'est Ezrat Nashim, près du char Nicanor, comme on l'avait vu dans les Mishnah précédentes. Chez Lot et Tamazazra, pour ne pas qu'elle va impurifier la cour. Alors, la Mishnah nous dit ici que déjà, dès qu'elle commence à boire, alors, tout de suite, il y a l'effet, dans le cas où elle a trompé, l'effet de cette eau commence à se faire ressentir. Et le Rav Barthenon, il nous dit que la Mishnah va comme l'avis de Rabbi Akiva, qui pense, la Mishnah c'est l'avis plutôt, c'est l'avis de Rabbi Akiva, qui pense comme Rabbi Shimon, que d'abord on offrait d'abord l'offrande, et après on la faisait boire. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit que dès qu'elle commence à boire, alors tout de suite l'effet commence. Or on sait que, comme c'est marqué dans la Torah, que là, cette mincha, cette offrande, elle est nécessaire pour pouvoir vérifier si la faute est ou pas. Ça s'appelle Maskeret Avon. Et donc, forcément qu'on l'a déjà offerte. Bon, ça c'est un détail que nous donnera le Rav Barthenon. En tous les cas, on voit qu'ici qu'elle commence à dépérir. Et là, les gens veulent qu'il la sorte. Pourquoi il la sorte? On parle ici qu'elle n'est, on a déjà vu tout ça, qu'elle n'est pas vraiment dans la cour du Beit HaMikdash, l'endroit le plus saint, mais elle est dans la Ezrat Nashim où il y a une certaine Kedusha, mais ce n'est pas la Kedusha de la Hazara. Et le Rav, il rapporte au nom de la Gemara que la crainte, c'est pas qu'elle ne meure. Parce que si elle meurt, il n'y a aucun problème que dans l'endroit où il se trouve, il y a un mort. On n'a jamais interdit de laisser des morts dans cet endroit qui s'appelle Machane Levia, c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient les Lévites au temps du Mishkan, puisqu'il n'y a pas la Kedusha de la Hazara, il n'y a pas la Kedusha de la cour même du Beit HaMikdash. Alors c'est quoi le problème? C'est qu'on craint que cette femme, par peur, elle commence à avoir ses règles, et là, elle a une impureté qui l'oblige à sortir de cet endroit-là. C'est pourquoi on la fait sortir. Bon, là, Michel continue. Elle nous dit Im yeshasrut aita tola, là, im yeshrut tola shana achat, yeshrut tola shteshanim, yeshrut tola shaloshanim. Alors, Michel nous dit que il est possible qu'elle ne va pas tout de suite mourir, même si elle a fauté. Parce que si elle a un sroute, si elle a un mérite, alors ce sroute va lui permettre de suspendre, d'empêcher l'effet de ce breuvage. Elle ne va pas mourir tout de suite. On verra dans la Mishnah précédente que malgré lui, il va y avoir quand même un début de développement, on va dire, un certain développement qui va l'amener à la mourir. Mais en tous les cas, elle ne va pas mourir immédiatement. Et c'est quoi ce sroute? C'est quoi ce mérite? Le Rav Barthenon rapporte au nom de la Gemara que c'est ce sroute de la Torah. Que si elle emmenait ses enfants pour étudier la Torah, ou bien elle attendait son mari, qui revenait du Beit HaMikdash, des maisons d'études, elle attendait pour l'attendre, et donc elle encourageait quelque part à étudier la Torah, alors ce sroute-là lui permettait de ne pas mourir tout de suite, et ce sroute-là, il pouvait faire dépendre des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de combien elle s'était fatiguée, et ce sroute-là faisait en sorte qu'elle ne mourait pas tout de suite. Voilà ce que la Mishnah nous dit. Et la Mishnah rajoute, elle dit, Mikan Amar Omer Ben Azaï, à partir de cette cet élément-là qu'on vient de développer. Ben Azaï, c'est un chacham, il nous dit Chayav Adam Lelamed et Bito Torah. Un homme est obligé d'enseigner à sa fille la Torah, on parle de la Torah orale, parce que la Torah écrite, c'est évident qu'une femme doit connaître la Torah écrite, mais on parle ici de la Torah orale, du Talmud, des Mishnayot. Sheim Tishte, parce que si elle boit, Teda Shasrut Tolala, elle saura que le mérite de la Torah lui permettre de ne pas mourir. Ça veut dire que il est possible, comme on l'a vu précédemment, qu'une femme ne va pas mourir tout de suite. Et donc, il est possible que soit la femme elle-même, elle a trompé, donc elle va voir que le breuvage qu'elle a bu n'a pas d'effet sur elle, ou bien elle va observer une sauté, elle sait pertinemment que cette femme-là, elle a fauté, mais elle, en tout cas, elle est persuadée, on voit qu'elle ne va pas mourir, et donc elle va dire, mais cette eau ne vaut rien, cette eau n'a aucun effet. Alors pour ça, Ben Azaï, il conseille à chaque personne, même il oblige à chaque personne d'enseigner la Torah, et que cette fille, en apprenant la Torah, elle va savoir que le srout de la Torah permet des fois que, comme on l'a dit, ce srout permet de suspendre et d'empêcher l'effet immédiat de la mort de cette femme qui a trompé son mari. Ça, c'est l'avis de Ben Azaï. Maintenant, il y a deux autres avis qu'on va voir tout de suite qui ne pensent pas comme ça, qui pensent qu'on ne doit pas enseigner à une femme la Torah Shebaalpé, c'est essentiellement le Talmud. C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Kolam Elamed Bitot Torah, Kilom Elamdat Tiflut. Il pense que tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme si il lui enseignait la frivolité. Ça veut dire qu'elle va apprendre, comme il explique le Rav, elle va apprendre à. Grâce à la chokhma, la Torah, à être espiègle, à être malin, mameline, et donc elle risque de plus tard d'utiliser cette chokhma pour faire des choses qui sont pas bien dans tout ce qui est mœurs. C'est ce qui nous dit le Rav. Il y a un autre avis qui touche un autre angle. Pourquoi il ne faudrait pas enseigner la Torah? C'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Rotsa Isha Beka Vetiflut Mitisha Kabin Veprishut. Il nous dit qu'une femme, elle préfère une mesure de nourriture et vetiflut. Ça veut dire tiflut ici dans le sens de quel est son mari qui est avec elle dans le lit, plutôt que 9 mesures de nourriture, c'est-à-dire 9 fois plus, et par contre, prishut, de l'abstinence alors que le mari n'est pas avec elle. Donc une femme, elle préfère, dans d'autres termes, c'est-à-dire qu'une femme, pour elle, c'est très important que d'avoir des relations avec son mari, beaucoup plus que d'avoir de la nourriture. Et donc s'il y a un choix entre la nourriture, l'aisance dans la nourriture, et le fait que son mari soit plus avec elle, elle préfère que son mari soit plus avec elle. Et donc c'est pas kedaï d'enseigner la Torah, qui est quelque chose d'une science élevée. Et que donc même la Torah, elle pousse plutôt à l'abstinence. Et donc la femme, ce n'est pas matim à la femme, ça ne correspond pas au teva qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans la femme, à sa nature. C'est pourquoi c'est pas quelque chose qu'il faut enseigner. Bon, c'est ce que nous y pensent ces deux avis. Tandis que Ben Azaï, il pensait que c'était bien pour la raison qu'on a vue plus haut. Maintenant, on va apporter un autre enseignement de Rabbi Yoshua, qui va nous enseigner. D'autres choses qui sont pas des bonnes attitudes. Voyomer chassid shoté v'rasharum v'ishap prusha v'makot prushim arelu mechale olam. Alors tous ces 4 cas qu'on va voir, ce sont pas des cas vraiment qui ont un rapport avec ce qu'on est en train de voir précédemment. C'est plutôt sur l'ensemble de Rabbi Yoshua que on l'a placé ici. Alors de quoi il s'agit? Chassid shoté, c'est un homme pieux qui est fou, ou bien un rachat arum, ou bien un impie qui est espiègle. Une femme proucha, une femme qui agit comme si elle vivait abstinence, comme si c'était une femme qui se retirait du monde, qui était tzadikette comme ça. Ou makot prushim, ou bien des prushim, des gens qui vivent prushim, eux aussi ils vivent prushim, c'est-à-dire qu'ils se déconnectent du monde, ils se déconnectent de leur olam hazeh, de ce monde-là et de tous ses plaisirs. Mais par contre, ils ont des coups, ça leur cause des blessures. Alors, tous ces quatre cas qu'on va expliquer dans un instant, Mechale Olam, il cause l'anéantissement du monde. Alors, de quoi il s'agit? Le premier, c'est Chassid Choté. Le Rav, il explique qu'on parle ici d'un homme qui a des expressions de piété là où il ne faut pas. Par exemple, il voit une femme qui est en train de se noyer dans un fleuve et elle appelle au secours, et lui, il dit non, non, je ne veux pas regarder une femme, je ne veux pas m'en occuper, j'ai fait attention de surveiller mes yeux. Ou bien, si c'était, il y a un autre cas qui est rapporté dans le Farshim, qu'il avait cette tefilin sur lui, et un enfant qui est en train de se noyer, là aussi, il dit, mais je ne peux pas parce que j'ai mes tefilin sur moi, ils vont se mouiller. On sait qu'on ne doit pas mouiller les tefilin parce qu'ils se détériorent. Dans tous les cas, ça s'appelle chassid choté. Ça s'appelle un pieu qui est fou, qui est bête. Parce que il ne comprend pas que dans ce cas-là, il faut au contraire sauver ces personnes et aller au-dessus de ces expressions de piété qui ne sont pas leur place. Le deuxième cas, c'est Racha Aroum. C'est quelqu'un qui va avoir qui a un différend avec quelqu'un, il doit se faire juger. Et il vient, il devance le jugement, il vient devant un des Dayanim, un des juges, et il lui exprime ses arguments. Alors c'est interdit, parce qu'une fois que le Dayan a écouté ses arguments, il est acheté, et même si demain il va écouter les arguments de l'autre, il a déjà pris une certaine direction dans son jugement. C'est pourquoi ça s'appelle que c'est un rachat, c'est un impie. C'est interdiction de la Torah de donner ses arguments avant que l'autre partie soit à côté de lui et qu'ensemble ils expriment leurs arguments. Le troisième cas, Isha Prusha, le Rav Bartonora, il me dit que c'est une femme en fait qui est une sorcière et qui utilise des sorcelleries pour que certaines femmes qui devraient accoucher n'arrivent pas à accoucher, c'est bloqué, l'enfant n'arrive pas à sortir. Et alors là, elle propose ses services et dit si tu veux, je prie pour toi et tu verras que ça va marcher. Elles acceptent. Et en fait, elles retirent leur sorcellerie et là, la femme peut accoucher. Et donc, on la prend pour une grande tzadéquette. On la prend pour une femme grande pieuse. Mais en fait, tout ça, c'est de la sorcellerie. Évidemment, toutes ces personnes-là ne sont pas des gens bien. Et le dernier cas, c'est Prouchim. C'est quelqu'un qui monte, qui fait très attention à ses yeux. Et donc, quand il marche, il y a deux cas, soit il marche, comme il ne voit pas devant lui, alors il marche un pied à côté de son pied, il marche doucement, prudemment, et donc des fois il s'écrase les pieds et il fait sortir du sang, ou bien il bute contre un mur, et là il a du sang sur son front. Tout ça c'est parce qu'il ne veut pas regarder autour de lui pour ne pas voir quelque chose qui est interdit. Alors ça s'appelle Makot Prushim. Tous ces cas-là c'est Mechale HaOlam, ça anéantit le monde dans le sens que c'est des gens qui ne sont pas des gens vraiment pieux. Tous ces cas-là, c'est des gens qui sont complètement contraires à l'esprit de la Torah. Et quelque part, ils apportent un Chilul Hashem. Ils apportent quelque chose, une attitude qui n'est pas cohérente. Et ça détruit le monde. Ça détruit le monde parce que le monde ne peut pas vivre avec une réalité de telle bassesse ou de telle tromperie. C'est des gens qui n'ont pas l'intérieur comme l'extérieur. C'est pourquoi la Mishnah les a rapportés ici. Le Rav Yehoshua, il a rapporté ces quatre cas qui bien montraient que c'est quelque chose qui des attitudes qui sont complètement contraires à l'esprit de la Torah.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.